Le débat africain. Alain Foucault.
L'augmentation par 16 des frais d'inscription pour les étudiants non européens dans les universités adoptée par le gouvernement français, un des éléments de la stratégie d'attractivité pour les universitaires internationaux, continue plusieurs semaines après de susciter de vives réactions dans les pays francophones d'Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à ce plan baptisé Bienvenue en France, avec plusieurs invités, des étudiants, des enseignants et la société civile. D'abord, mademoiselle Waliatou Mouriana, étudiante togolaise en Master 1 à l'université d'Artois, en France, dans le Nord. Bonjour Waliatou.
Bonjour Alain Foucault.
Second invité de ce plateau, en direct cette fois-ci de Dakar, Abdoulaye Samb, le doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et d'ontologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est en direct de la capitale sénégalaise. Bonjour Monsieur Samb.
Bonjour.
Notre troisième invité est Monsieur Janvier Ntoutoum, ancien étudiant en France, membre de la société civile gabonaise. Bonjour Monsieur Janvier Ntoutoum.
Bonjour Alain Foucault.
Nous avons souhaité compter parmi nos invités aujourd'hui un membre, un porte-parole du gouvernement, mais les responsables du service de communication du Premier ministre nous ont fait comprendre qu'ils ne souhaitaient pas s'exprimer sur la question et nous ont envoyé vers Campus France, qui est partenaire de cette réforme. Pendant plusieurs jours, ils nous ont assuré de la présence de leur directeur de la coordination géographique. Mais, sans explication, au dernier moment, ils nous ont fait parvenir un mail lapidaire pour s'excuser de ne pouvoir participer à ce débat. Nous le déplorons et ne pouvons occulter le sujet qui est large et pas assez connu du grand public, notamment des étudiants. Ceci dit, comment réagissent, M. Samb, les étudiants sénégalais à cette augmentation des frais de scolarité?
Alors, globalement, les étudiants sénégalais étaient surpris de cette augmentation des frais de scolarité parce que nous avons toujours pensé qu'entre nous et la France, il y a une solidarité dans l'espace francophone. Il faisait au moins, en ce qui concerne les études, il y avait cette possibilité d'aller en France pour compléter, en général, donc, les études. Je pense que c'est extrêmement donc, important. Dans l'espace francophone, la solidarité est quelque chose d'extrêmement important. Nous avons une histoire. Nous venons actuellement de fêter 100 ans de l'école de médecine de Dakar. 30 ans. Donc, qui a été créée en 1918. Donc, vous voyez déjà qu'il y a une longue histoire entre la France et le Sénégal, en particulier pour la France.
Oui, mais on a envie de vous répondre que ce n'est pas au nom de cette histoire seulement que la France ne peut pas faire des réformes dans son système universitaire, rendre son système universitaire plus attractif. Et la France ne peut pas passer le temps, vous disent certains, à penser qu'il faut ne jamais payer parce qu'on ne veut pas se fâcher avec les autres pays francophones d'Afrique.
Oui, mais je suis d'accord, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est 300 ans de colonisation, parce qu'il faut qu'on revienne à cela. Et pendant cette période, qu'est-ce qui s'est passé? La colonisation, il y a des choses qui ont été déplacées, les richesses qui ont été donc déplacées. Et puis, tout ça, il faut se rendre compte que, voilà, on a eu beaucoup de retard, une certaine spoliation donc, de nos richesses donc, nationales qui ont fait aujourd'hui peut-être...
On va revenir sur la question, mais je pense, pour Janvier Ntoutoum, qui a été ancien étudiant ici en France, est-ce que la France n'est pas libre de modifier son système universitaire?
Je pense qu'ils ont toute la latitude de faire ce qu'ils veulent, de le modifier ou de ne pas le modifier. Seul qu'il faut retenir que la francophonie, elle-même, elle est adossée sur ces cultures en partage. Le système universitaire, pour ne pas faire ce que nous avions adopté depuis la colonisation comme système de base de l'éducation. La France était donc vue comme étant la finalisation d'un processus. Or, si aujourd'hui...
Mais monsieur Ntoutoum, quelqu'un de votre âge qui a fait ses études en France, qui travaille aujourd'hui au Gabon, qui parle d'indépendance, on a du mal à comprendre que quelqu'un qui dit « on est indépendant » se dise en même temps « nous sommes arrimés à la France » et que la France ne peut pas réformer son système universitaire sans penser au reste de l'Afrique. Où est l'indépendance? Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence dans ce discours?
Il reste que, monsieur Alain Foucault, l'incohérence dans ce discours est dans le processus même des lois cadres qui ont prévalu entre la France et les États d'Afrique francophones. Si la France veut se départir de ce processus-là, il faut qu'elle le fasse de manière entière. Je pense, par exemple, à ce à quoi est arrimé aujourd'hui le franc CFA, si on veut vraiment prolonger le débat. Le franc CFA est adossé aujourd'hui à un système qui supporte sa parité par des prélèvements libératoires qui n'ont jamais changé depuis les indépendances. Nous avons pensé que c'est un tout. On a dit indépendant, mais alors que cette indépendance-là aille dans un tout. Si on commence à défaire un certain nombre de dispositions de cette loi cadre qui a prévalu avant les indépendances et qui s'est poursuivie dans le système qu'on a appelé la France-Afrique, alors il faut tout poser à plat. En ce moment-là, on conviendrait de comprendre que la France veut tout mettre à plat et on s'assoit avec les partenaires, on met tout à plat.
Avant de revenir sur le fond du débat, puisque là vous entrez dans ce qu'on entend beaucoup en Afrique ces derniers jours, j'ai envie de me tourner vers l'étudiante qui vit cela, qui est arrivée en France sous un autre système où on payait 170 euros et qui probablement l'année prochaine va payer plus. Waliatou Mouriana, vous êtes étudiante togolaise. Comment vous vivez ça et comment vous envisagez la suite?
D'abord, c'est par 16 quand ça a été multiplié. Moi, je le vis. Enfin, c'est très choquant. Hein. En fait, c'est un peu démoralisant.
C'est par 16 que ça a été multiplié, oui.
Mm-hmm. Par 16, oui. Mm-hmm. Oui, c'est-à-dire, j'ai payé 380 cette année. Donc, l'année prochaine, bah, il paraît que je ne serai pas concernée parce que je suis déjà dans un parcours puisque je vais faire le Master 2. Sinon, je paierai 3 710 euros. C'est-à-dire l'équivalent de 2 500 francs CFA, au lieu de 250 000.
Donc l'année prochaine, c'est ce que vous allez payer?
Oui, je crois.
Est-ce qu'on vous...
Mais la rumeur dit que ceux qui sont déjà dans un parcours ne seront pas concernés. Mais moi, je n'ai pas du tout de... Je ne sais pas trop sur cette mesure-là.
Alors, est-ce que vous vous êtes rapproché du CROUS, par exemple, ou du CNUS, qui sont le Centre national des œuvres universitaires et scolaires, pour vous informer sur ce qui se passera l'année prochaine, si vous êtes concerné, et quel sera le prix que vous payerez l'année prochaine?
Ah, ça m'a échappé, par contre. Mais j'ai discuté avec les étudiants, c'est-à-dire le président d'une des organisations avec qui on avait manifesté la semaine dernière, le samedi. Et ils ont dit que c'est retenu, quoi. C'est-à-dire, c'est de 3 770 euros.
C'est ce que vous payerez l'année prochaine.
Mais pas une recette, vous allez en cours, par contre.
Dans le même temps, là je me tourne à nouveau vers Monsieur Samb qui est à l'université de Dakar. Je rappelle que les Sénégalais, dans le classement des premiers pays d'origine des étudiants étrangers en France, il y a les Marocains qui sont les plus nombreux, les Chinois, les Algériens, les Tunisiens, les Italiens, ensuite les Sénégalais. Les Sénégalais n'arrivent donc qu'en sixième place, mais ils sont importants en France. Est-ce que vous comprenez l'argument qui veut que l'étudiant chinois, par exemple, comme le disait le Premier ministre, qui est d'une famille fortunée, quand il arrive en France, il paye les mêmes 170 euros qu'un Français qui cotise, qui paye ses impôts ici sur le territoire. Est-ce que vous comprenez que l'on puisse corriger cette injustice?
Alors, ça, c'est l'étudiant chinois, mais l'étudiant sénégalais, francophone, qui arrive donc en France, doit, à mon avis, par solidarité, payer la même chose. Le français. Parce que lui, il va venir. Tes parents vont lui assurer la subsistance, des subsides pour survivre, faire ses études, payer sa scolarité. C'est pas la France qui lui paye toutes ses commodités. Mais c'est l'État, c'est sa famille qui lui paye tout ça. Donc à partir de cela, je pense que cette solidarité, moi je pense que c'est ça qui doit primer sur tout. Le mercantilisme,
mais,
je veux dire.
Oui, mais dans le même temps, vous êtes doyen à Dakar, à l'UQAD. Vous savez bien que ces études, ça coûte de l'argent. Ça ne coûte pas que les frais de scolarité. Ça coûte de l'argent à l'État. Lorsque quelqu'un arrive d'un autre pays, on a pris l'exemple de la Chine, puisque c'est l'exemple pris par le Premier ministre, arrive fortuné et paye cette somme-là, 170 euros en France. L'étudiant français paye la même chose. Or, il paye ses impôts, ses parents payent l'impôt en France. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice, au-delà de la solidarité avec l'Afrique dont vous parlez?
Oui, d'accord, je vous dirais, probablement, c'est possible. Mais on a quand même, entre la Chine, la personne venant donc de la Chine, avec sa famille fortunée, c'est différent que du Sénégalais. Parce que nous avons à peu près 10 000 étudiants sénégalais qui chaque année partent en France pour des études. Donc c'est important. C'est une masse quand même relativement importante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on pouvait normalement leur accorder un statut particulier. Parce que ce n'est pas ça. L'histoire fait qu'aujourd'hui, on ne doit pas mettre tout le monde au même pied d'égalité. Nous avons besoin encore de la France pour certaines spécialisations. Probablement, nous, de plus en plus, on va faire le nécessaire pour pouvoir retenir nos étudiants au Sénégal. C'est pour cela qu'on fait
on va parler du volet. Est-ce que ce n'est pas aussi l'opportunité pour les pouvoirs publics en Afrique de repenser leur université? On va arriver à cette question-là dans un instant. Mais monsieur Janvier Ntoutoum, la question est la même. Vous comprenez quand même que pour rééquilibrer, pour que les choses soient normales, il fallait à un moment ou à un autre que pour rendre attractives ces universités-là, on y mette le prix.
Alain, je crois que, comme a dit le professeur Sam tout à l'heure, l'étudiant africain, l'étudiant chinois, pour ne prendre que cet exemple que vous avez, qui est fortuné, qui arrive en France, qui paye le même prix, est-ce qu'il se loge lui-même ou est-ce qu'il se loge en campus? S'il se loge lui-même, ça veut dire que ses parents vont chercher un appartement, ils vont payer des impôts sur cet appartement. Je prends mon propre exemple. Quand je suis arrivé, je n'étais pas très fortuné. Je n'ai pas vécu en campus. J'étais obligé de prendre un logement. Je payais les mêmes impôts que les autres sur ce logement-là. Je consomme, je paye les mêmes impôts à la consommation que le français, à la consommation. Mmh. Alors, ça veut dire que à partir du moment où on commence à tirer sur les particularités que j'appelle des minima, j'ai envie de dire qu'on cherche la petite bête pour dénoncer le loup qui est derrière.
Qu'est-ce que vous essayez de dire par là?
Je pense très sincèrement que pour rendre une université attractive, ce n'est pas le prix qu'il faut mettre, c'est la qualité de l'enseignement qu'il faut mettre derrière. Ce n'est pas le prix. Le prix va réduire le nombre de personnes à l'accès. Est-ce que la qualité va ensemble que le prix?
Là, on dit, là, le texte, est-ce que vous avez lu l'ensemble de la stratégie globale de ce bienvenu en France? Parce qu'il y a d'autres dispositions, on ne parle que du prix, mais on dit qu'il va y avoir un meilleur accueil des étudiants étrangers en France, notamment le fait qu'ils bénéficieront d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant.
Certainement, Alain. À mon époque, nous avions des mesures attractives également. Mais nous avions des prix relativement bas. Nous avions des bourses interfac qui étaient des bourses de la coopération. Mais ces bourses de la coopération, elles venaient de l'impôt des Français. Nous étions déjà indépendants. Nous avions des universités, pour ne citer que le cas du Gabon, nous avions au Gabon une université qui était gérée par l'ambassade de France, l'Institut National de Sciences de Gestion, gérée par l'ambassade de France. Les professeurs qui venaient participer au cours ici, ils étaient payés par l'ambassade de France. L'école des ingénieurs de Libreville, c'était exactement la même chose. C'était des bourses de coopération. Nous payons des prix relativement bas et la qualité de l'enseignement y était. Donc aujourd'hui, dire qu'on augmente les prix, on les multiplie par 16 pour donner des moyens d'attraction à ces écoles ou à ces universités, je dis que c'est un faux débat. Le débat de fond, c'est qu'on a envie de se défaire des colonies. Alors, la trop grande dépendance des colonies, on a envie que les colonies améliorent leurs universités et que leurs enfants restent dans les colonies. Si c'est ça l'objectif caché, alors mettons à plat tous les accords de coopération.
Là, on entre dans un autre sujet peut-être, mais c'est le sujet qui bat son plein en Afrique aujourd'hui. J'aurais bien voulu que les membres de Campus France soient sur ce plateau, parce que je joue les avocats du diable à leur place. Ils ont forcément beaucoup plus d'arguments que moi pour défendre le projet. Projet qui est vaste, projet qui est important, puisque dans le même temps, on dit qu'on va tripler le nombre des bourses et les exonérations des droits pour ceux qui en ont besoin. Actuellement, le Quai d'Orsay attribue des bourses d'études à 7000 étudiants étrangers. Et selon cette stratégie, ces bourses vont passer à 8 000. Est-ce que ça n'est pas une des solutions, professeur Samb?
Alors, je pense que globalement, les bourses En général, la France avait l'habitude de donner des bourses. Alors, augmenter le nombre de bourses en augmentant les cotisations, cela veut dire que simplement on demande aux Sénégalais d'assurer probablement de leur propre bourse. Je veux dire, c'est ça, parce qu'on cherche des ressources additionnelles pour donner plus de bourses. Alors que ça, je pense que les bourses, c'est dans le cadre donc de la solidarité, de tout ce que nous lie depuis longtemps, qui font qu'aujourd'hui, on devait obligatoirement les donner. Et ça, c'est important. Alors, vous me direz que, derrière, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est peut-être quelque chose de salutaire, peut-être, qui va nous permettre à toute l'Afrique, enfin les anciennes colonies, de dire qu'aujourd'hui, il nous faut faire un effort important pour développer notre enseignement supérieur.
Ah, ce sera le principal sujet dans la deuxième partie. Mais là, je vais me tourner vers l'étudiante. Waliatou Mouriana, dans ces dispositions, il y a la question de la facilitation de l'obtention du titre de séjour aujourd'hui. Ce qui est un vrai parcours de combattant pour l'étudiant qui arrive, qui va être amélioré par cette stratégie. Est-ce que ce n'est pas un plus? Est-ce qu'on ne focalise pas trop sur le prix?
Oui, en fait, moi, ce n'est pas le fait que la France ait augmenté le prix qui me déçoit. Non, elle est souveraine et puis elle est libre de ses décisions. Mais c'est que l'augmentation est vraiment scandaleuse, quoi. Pour moi, on devrait le faire petit à petit.
Mm-hmm.
Voilà. Et donc, oui, en ce qui concerne la question que vous venez de poser, c'est-à-dire le titre long séjour, c'est vrai que c'est vraiment compliqué. Là, moi, je n'ai même pas encore la vignette de l'office depuis 3 mois que je suis là.
Mm-hmm. C'est un vrai parcours de combattant pour obtenir sa carte de séjour d'étudiant.
Oui,
or, là, on dit qu'on va l'améliorer.
Oui, c'est vrai que ça limite dans les courses administratives. Il y a des choses que tu aurais pu faire immédiatement, mais que tu ne peux pas faire parce que tu n'as pas la vignette de l'OFI. Mais pour moi, ce n'est pas ça qui doit nous revenir à 2 millions de francs, quoi. Et puis, quoi qu'on dise, c'est cher, quoi. C'est trop cher.
C'est beaucoup trop cher. Est-ce que vous allez pouvoir payer ces frais de scolarité l'année prochaine?
Ah non, si vous voulez, franchement, moi je ne sais pas. Mais j'ai peur de retomber dans la même chose qu'au Togo, quoi. C'est-à-dire, oui, j'étais là et puis j'ai fini ma licence et j'ai été obligée d'arrêter pendant 4 années parce qu'il n'y a pas de master. Et ici, si je vais devoir arrêter pendant plusieurs années pour chercher de l'argent et financer mes études, c'est un peu compliqué, ça.
Donc, pour vous, si l'année prochaine, on doit payer cette somme-là, vous ne pourrez pas payer et vous serez obligé de rentrer au pays.
Non, je ne serai pas obligée de rentrer au pays.
On dirait que c'est une perspective qui n'est même pas envisageable pour vous.
Oui, pas du tout. Parce que là, moi, je suis en art de la scène. Et puis, ce n'est pas au Togo que je vais faire. Je ne peux pas m'inscrire en art de la scène au Togo parce qu'il n'y en a pas. Du coup, je suis venue pour une formation que je n'ai pas chez moi et pour moi, j'aime bien. Et s'il faut retourner au pays, je ne sais pas, c'est pour m'inscrire encore dans une autre formation. Moi, ce n'est pas retourner qui me ferait, non. C'est parce que la formation qui me plaît n'est pas disponible chez moi. Voilà.
Professeur Samba, est-ce que des personnes comme Waliatou qu'on vient d'entendre existent dans le cas du Sénégal? Est-ce que vous pensez qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui sont déjà ici, mais qui vont repartir au pays du fait du prix?
Alors, je dirais simplement qu'il y aura beaucoup d'étudiants qui seront en difficulté. Parce que vous voyez bien, quand on multiplie par 16 le montant, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement... C'est un montant trop important pour les étudiants, pour les familles. Parce que derrière, il faut savoir que ce sont des familles.
C'est des familles qui
payent. En général, les parents qui envoient donc les enfants, c'est la classe moyenne en général. Aujourd'hui, sachez quand même que la plupart des Sénégalais très fortunés vont ailleurs. Canada,
c'est clair, on va en parler dans la seconde partie du ailleurs dont vous parlez. Et puis, on parlera aussi du fait que ça va peut-être permettre aux autres de penser à une autre université en Afrique. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la deuxième partie du débat africain pour en parler puisque c'est l'heure du journal sur RFI. Rendez-vous dans 10 minutes. À très vite.
Le débat africain à Alain Foucault.
Ils vont désormais payer 16 fois plus cher que les 170 euros qu'ils réglaient jusque-là, c'est-à-dire 2770 euros. L'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants non européens dans les universités françaises continue de susciter les réactions les plus diverses dans les facultés francophones du sud du Sahara. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré ce dimanche à cette stratégie dont le but est de rendre plus attractives les universités françaises pour les étudiants internationaux, avec plusieurs invités, des étudiants, des enseignants et la société civile. D'abord, Waliatou Mouriana, étudiante togolaise en Master 1 à l'Université d'Artois en France. Second invité de ce plateau, en direct cette fois-ci de Dakar, le doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'Université Cheikh Anta Diop. Notre troisième invité est M. Janvienne Toutoum, ancien étudiant en France, membre de la société civile gabonaise. Nous avons souhaité compter parmi nos invités aujourd'hui un membre, un porte-parole du gouvernement, mais les responsables du service de communication du Premier ministre nous ont fait comprendre qu'ils ne souhaitaient pas s'exprimer sur le sujet et nous ont envoyé vers Campus France, qui est partenaire de cette réforme. Pendant plusieurs jours, Campus France nous a assuré de la présence de leur directeur de la coordination géographique sur notre plateau. Mais sans explication, au dernier moment, ils nous ont fait parvenir un mail pour s'excuser de ne pouvoir participer à ce débat. Nous le regrettons, on aurait bien voulu qu'il soit là pour nous donner l'essentiel, ou en tout cas les points important de cette réforme entreprise. Alors, dans la première partie, nous avons évoqué les difficultés auxquelles vont être confrontés les étudiants africains, les étudiants en général, mais africains en particulier, face à cette augmentation du prix. Est-ce que ce n'est pas le moment aussi de réfléchir à la question même des universités africaines, professeur Samb?
Merci beaucoup Alain, c'est un point extrêmement important. Aujourd'hui, vous savez qu'avec les problèmes d'ajustement structurel, la Banque mondiale avait en un moment développé de manière très importante l'enseignement de base allant jusqu'en seconde. Et on avait délaissé complètement l'enseignement supérieur. Et toutes ces personnes qui ont évolué sont venues un beau jour augmenter de manière importante les étudiants au niveau des universités. Et à partir de ce moment, on a eu un déficit et un problème extrêmement donc important qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de développer notre enseignement supérieur. Au Sénégal, nous avons construit plusieurs universités et nous sommes en train de mettre en place des plateformes mutualisées de recherche. Au niveau, par exemple, aujourd'hui, de Diamniadio, nous avons le campus universitaire qui va mettre en place la plateforme mutualisée et avec des équipements très performants de calcul, des équipements très performants allant de la génomique au big data. Nous sommes en train donc de faire tout pour qu'au moins au niveau donc du Sénégal, qu'on ait toutes les infrastructures, le matériel qu'il faut pour faire des études avancées, des études supérieures. Et je pense que ça, c'est extrêmement, peut-être, c'est une opportunité aussi pour savoir qu'effectivement, on doit essentiellement compter sur nous. Le deuxième problème aujourd'hui, moi j'aurais compris que même au niveau de la licence, que les prix soient relativement élevés et qu'on diminue les prix au niveau du master, alors que c'est le contraire apparemment d'après ce que j'entends. Quand on arrive au niveau de la licence, on va payer beaucoup plus. Alors qu'aujourd'hui, par solidarité, on devait nous permettre d'assurer au moins une formation jusqu'à la licence. Et avec les équipements qu'on a en Europe, de permettre à nos étudiants d'aller terminer, se perfectionner en France. Et je pense que ça...
Un vrai transfert de technologie. Ça. Mais dans le même temps, on a envie de vous dire... Les études en Grande-Bretagne, aux États-Unis, c'est beaucoup plus cher. Or, on n'entend pas les Africains se plaindre de la cherté des études là-bas.
Mais parce que la France a avec nous un héritage ou bien une histoire particulière. Nous avons
Cette histoire, ça dure depuis trop longtemps et peut-être que c'est le moment de la rupture.
Si ça peut, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, nous, en tout cas, on va prendre en charge notre propre destin. C'est bien, la France le fait, mais nous allons prendre en charge. Mais je pense qu'un accompagnement est utile et nécessaire. Il faut une solidarité dans l'espace francophone. Nous utilisons donc le français comme langue. Et vraiment, je pense que ça, c'est un plus pour l'Afrique, c'est quelque chose.
Moi, pendant que je préparais cette émission, j'ai eu un certain nombre d'étudiants qui disent « on comprend pas ce débat » et des étudiants africains, puisque de toute façon, de plus en plus, les étudiants vont vers les États-Unis, vont vers la Grande-Bretagne, vont au Canada. Et on comprend pas pourquoi ça serait moins cher ici, alors qu'au Canada, ça coûte beaucoup plus cher, Janvienne Toutoum.
Mais Alain, qui va au Canada, qui va aux États-Unis, ce ne sont pas les enfants de la classe moyenne.
Oh si, de plus en plus quand même. Si, de plus en plus quand même. Ils arrivent et ils travaillent et ça coûte plus cher. Ils travaillent pour payer leurs études.
Il y a deux processus. Il y a le processus linéaire, celui de l'enfant qui a commencé ses études ici, qui veut aller les poursuivre en dehors de l'Afrique, soit en France, soit aux États-Unis ou au Canada, pour ne citer que ces exemples-là, ou en Angleterre. Ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, parce que généralement, l'État paye pour partie, et les parents doivent payer pour autre.
Si dans le cas du Gabon, il ne faut pas généraliser. C'est au Gabon que l'État paye pour partie, parce que dans la plupart des pays francophones, chacun paye pour lui.
Oui, dans le cas du Gabon, l'État paye pour partie, les parents payent pour l'autre. Ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. C'est à la portée des bourses de cadre. La bourse du foyer moyen, ce n'est pas possible. La France restait l'ouverture pour se parfaire, adossée sur les accords de coopération. Aujourd'hui, comme disait le professeur Sam tout à l'heure, si la France pense, et si nous devons saisir cette opportunité pour revoir l'enseignement supérieur chez nous, il faut un minimum d'encadrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je disais, pour le cas du Gabon, que je connais parfaitement, il y a quelques années, nous avions dans les universités gabonaises des écoles spécialisées qui étaient gérées par les universités, qui avaient une coopération avec les universités françaises, dont les professeurs faisaient les deux à la fois, et gérées par certains responsables de l'ambassade de France. Ces écoles nous ont permis, par exemple aujourd'hui, d'autonomiser l'école des ingénieurs, qui est à Franceville aujourd'hui, d'autonomiser l'Institut national de sciences de gestion, dont on connaît les résultats aujourd'hui et qui a formé la plupart des cadres qui sont dans les entreprises gabonaises aujourd'hui. Si l'on doit repenser nos universités, il faut ce minima-là. Ce n'est pas un matin, on vous dit, les budgets familiaux sont bouclés pendant toute la saison et puis les enfants sont partis. C'est quand les enfants sont partis qu'on vous dit, on multiplie par 16 les frais de scolarité.
Mais on a le sentiment que, même si c'est un électrochoc, que le fait que cette solution française existe a finalement fait que les Africains eux-mêmes, les Africains francophones, j'entends, eux-mêmes ont fini par se dire, si le système sur place est mauvais, il n'y a pas de souci. On va faire avec, puisqu'un certain nombre, à un certain moment, vont aller vers la France. Ce n'est pas un peu ça, professeur Samb?
Non, je pense que ici, ce que nous avons dit, c'est parce que c'est la classe moyenne américaine qui envoie les enfants en France. Alors, cette classe moyenne.
Mais cette classe moyenne est très peu critique vis-à-vis des universités africaines même. Est-ce qu'on ne devrait pas, là, se dire, oui, peut-être qu'on a été un peu trop laxiste, on s'est appuyé sur les autres et on a oublié qu'il fallait d'abord développer chez nous?
Non, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous savez qu'avec les ajustements structurels, la Banque mondiale avait une politique particulière. On nous disait, vous n'avez pas besoin de développer votre enseignement supérieur. Occupez-vous donc du primaire, du secondaire. Et puis, on s'est occupé de ça sans penser à ces étudiants qui vont venir plus tard. Mmh. Et quand ils sont venus, le nombre a explosé au niveau de l'enseignement. On n'a pas eu le temps de préparer tout ça. Mais maintenant, je pense qu'il y a cette prise de conscience. Et je pense que les organismes internationaux aujourd'hui sont maintenant convaincus que nous devons développer en Afrique notre enseignement supérieur. Mmh. Et vraiment, je pense que c'est la seule solution. C'est la seule solution. Mais je pense que dans ce développement, on a besoin de l'accompagnement de la France et des autres pays. Hein. Je pense que ça, c'est extrêmement important.
Des autres pays aussi, puisqu'on voit de plus en plus des étudiants africains aller ailleurs qu'en France. Hein. Il y en a qui vont même en Chine, au Japon, en Australie même.
La dernière fois, je discutais avec un ministre, ancien ministre sénégalais, qui me disait qu'il avait négocié au Canada que les étudiants sénégalais payent la même chose que les Canadiens. Parce que, bon, voilà, c'est par solidarité que ça a été fait. Mais aujourd'hui, ça, c'était pour nous, vraiment, c'était presque pas négociable. Mais bon, on nous a mis dans le lot d'étudiants qui doivent maintenant payer comme étrangers. Et bon, je pense que c'est regrettable. Mais il faut aussi faire. Et peut-être maintenant prendre notre destin entre nos mains et développer notre enseignement supérieur.
Alors, j'ai envie de poser la question à l'étudiante de notre plateau. Qu'est-ce qui vous a fait choisir la France? Vous auriez pu aller, par exemple, dans le cas du Togo, qui a été colonisé à l'époque par l'Allemagne, vers l'Allemagne. Pourquoi la France, si ce n'était pas attractif? Était-ce seulement le prix ou bien la qualité de l'enseignement?
La qualité de l'enseignement, sans doute. Et puis, bah, moi, je ne peux pas aller en Allemagne parce que je dois apprendre la langue. L'intégration me sera encore plus compliquée.
La barrière linguistique.
Oui, voilà, que ce à quoi j'ai été confrontée quand je suis arrivée en France. Mmh. Et à ces deux messieurs, franchement, moi, j'ai envie de leur dire que si c'est maintenant, parce que si c'est maintenant que la France a multiplié par 16 les frais de scolarité, qu'ils vont prendre leur destin en main, eh bien, tant mieux, quoi, qu'ils le prennent en main. Pourquoi nous, les étudiants africains, on ne soit plus obligés de quitter nos pays parce que nos universités sont de vraies merdes. Mais on a vraiment envie de quitter, quoi. Parce que moi, je ne les comprends pas. Nous ne sommes pas dans une logique de mondicité. C'est que, en réalité, nous sommes les premiers fossiles. Si nos pays ne se développent pas, si nos universités ne s'améliorent pas, nous serons toujours la risée du monde.
Qu'est-ce que vous...
Ça, franchement, s'ils quittent les tours du genre, oui, on va prendre nos destins. Mais bien, prenez-le très vite, quoi. Oui, vous avez développé l'enseignement primaire et machin, d'accord. Et quand on, la majorité des pays ont obtenu leur indépendance pendant... Enfin, il y a 50 ans au moins, quoi. 50 ans ne leur a pas suffi pour améliorer nos cadres éducatifs et tout. Et puis, il faut que nous, on rôde. Au Togo, par exemple, pour installer le master, il faut au moins mettre un an chaque année. Et puis, il est vraiment presque impossible de terminer en 2 ans son master, quoi, de le boucler en 2 ans. Dans des conditions normales, moi, je devrais être en 2e année de thèse cette année, mais à cause des banalités, parce que nos dirigeants, ils se foutent de nous. Nos cadres universitaires et tout, ils ne tiennent même pas compte de nous, notre avenir. Moi, je me retrouve à étudier cette année, la première année de master. Ça énerve. Donc, ils arrêtent et puis qu'ils pensent l'évolution de nos pays, quoi.
Alors, professeur Samba, vous comprenez la colère de Waliatou qui dit « Comment est-ce seulement maintenant qu'on va se réveiller pour dire on va développer notre enseignement supérieur ?» Là, vous avez parlé des plans d'ajustement structurel, mais très sérieusement, est-ce que jusqu'à maintenant, on n'était pas conscient quand même que ce n'était pas une solution à long terme ?
Oui, je pense que malheureusement, on était sous le coup un peu des difficultés. On a eu partout dans le monde pendant cette période où l'Afrique quand même était relativement pauvre. Il y a des cycles de sécheresse qui fait que les ressources étaient extrêmement rares. Et voilà, il fallait se plier aux conditions donc des organismes donc internationaux qui nous ont après poussé vers une direction dans au niveau donc de...
Oui, mais il y a des domaines dans lesquels on a résisté. Et là, sur la question de l'enseignement supérieur... C'est quand même là qu'on a laissé tout tomber. Est-ce qu'on peut développer un pays si on a laissé tomber l'enseignement supérieur et si d'un coup on se réveille un matin en se disant tiens...
Mais malheureusement, vraiment, je dirais que c'était la grande erreur qui a été faite au niveau donc de nos différents
dirigeants,
de nos différentes nations, et de nos différents dirigeants, le fait un peu de se plier aux exigences donc de la Banque mondiale qui ont développé de manière importante l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire. Et tout ce beau monde, un beau jour, arrive à l'université. Qui a maintenu les mêmes capacités qu'on avait avant. Aujourd'hui, au niveau de l'ICAR, nous avons à peu près 80 000 étudiants. Initialement, quand on construit l'université, c'était aux alentours de 8 000 étudiants. Donc, à partir de ce moment, vraiment, ça devient extrêmement difficile. Il nous faut nous adapter, nous avons conscience de cela. Nous sommes en train de développer notre enseignement supérieur pour qu'au moins, qu'on puisse prendre en grande partie une partie. Mais on a besoin, en fait, un peu d'accompagnement pour former des élites, pour pouvoir prendre en charge donc l'ensemble des besoins au niveau donc de formation. Je pense ça, un accompagnement est utile. Alors bon, ce problème donc vient un peu compliquer donc les choses.
Bousculer.
Mais on va s'adapter, je pense.
Alors, Monsieur Jean-Vien Toutoum, vous évoquiez les accords de coopération, mais vous entendez la colère de la jeune étudiante Waliatou Mouriana qui a raison en disant, c'est bien gentil tout ça, de parler de coopération, mais qu'avons-nous fait pendant les 60 dernières années?
Elle a certainement raison de s'exprimer sur la manière, vous avez entendu le professeur Sam tout à l'heure, nous avions commencé à développer l'enseignement supérieur dans les pays d'Afrique francophone, pour ne citer que cela. Nous avions même, pour des nécessités de transfert de technologies, commencer à accepter l'implantation je dirais, des îlots d'enseignement à l'intérieur de nos universités pour l'accompagnement. Je vous ai cité tantôt le cas de l'Institut national de sciences de gestion, de l'École nationale des ingénieurs de Libreville, du Centre universitaire de la santé qui est devenu aujourd'hui la faculté de médecine, pour ne citer que ces cas-là. Ce système d'accompagnement avait pour objectif de nous permettre de rendre efficient l'enseignement supérieur chez nous. Lorsque sont arrivés les plans d'ajustement structurel, on nous a dit, vous perdez trop d'argent, vous mettez trop d'argent là-dedans, il faudrait penser à restructurer vos économies. Et malheureusement, on a péché, il faut le reconnaître, on a péché en adoptant les yeux fermés ces plans d'ajustement structurel dans certains dispositifs qui étaient mis en place. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un rétro-pédalage pour revoir l'enseignement supérieur. Et j'en conviens. Nous nous sommes un peu adossés sur les accords de coopération en disant...
Un peu endormis, vous voulez dire.
Voilà, nous nous sommes endormis sur ces accords de coopération en disant, c'est un tout. Comme c'est un tout, ce n'est pas demain que ce tout-là va être défait. Nous allons progressivement envoyer nos étudiants aller se parfaire en France, parce qu'en France, ils n'ont pas de difficultés de langue. Si nous voulons avoir rapidement des retours, les problèmes d'intégration pour des étudiants francophones ne se poseraient pas en France. C'est pour cela que la majorité de nos étudiants sont allés en France. Ce n'est pas le cas pour ceux que nous envoyons, mais vous voyez que depuis ces dernières années, il commence à se développer de plus en plus des cadres de coopération Afrique Sud-Sud-Nord-Nord.
Sud-Sud, notamment avec en Afrique du Sud, oui.
Mm-hmm. En Afrique du Sud, on en envoie en Afrique du Nord, et on en envoie, pour le cas du Gabon, on en envoie au Sénégal. Pourquoi ? Parce que nous pensons qu'à un moment donné, il va falloir que nos universités se développent dans ces accords de coopération. Il faut maintenant mettre en place des cadres institutionnels qui permettent que nos universités mutualisent leurs moyens.
Et qu'on revienne peut-être à ce qui se faisait à l'époque. Il y avait des universités régionales qui étaient fortes et qui étaient sud-sud. On sait bien qu'on allait d'un pays à un autre, où les universités étaient meilleures avec des spécialisations. Professeur Samb, aujourd'hui, est-ce que l'urgence, pour terminer, n'est pas d'ouvrir des négociations avec les institutions universitaires françaises pour les cas spécifiques dans certains domaines bien précis?
Alors, pour les cas, je pense que c'est toujours donc des négociations et des accords particuliers qu'on aura. Mais derrière, quand l'État dit les droits d'inscription sont fixés à tout, ça va s'imposer à tout le monde. C'est ça le gros problème.
Mais peut-être qu'il peut y avoir des cadres de négociation pour certaines spécialisations.
Mais j'imagine, parce que ça sera la bienvenue.
Malheureusement, nous n'avons pas eu les personnes du ministère ou de Campus France pour pouvoir nous donner des explications. J'aurais bien voulu, parce que j'ai joué l'avocat du diable.
Je vais peut-être simplement dire un mot sur ce que vous avez dit un peu.
Rapidement, parce qu'on arrive au terme de l'émission.
Pour les centres d'excellence, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en Afrique, on doit avoir des pôles de formation, ça veut dire d'excellence, où certaines zones s'occupent de certaines formations et on envoie tous les étudiants vers ce pôle-là. Et au niveau donc de l'UEA, il y a la création des
de l'Union africaine.
Il est important de l'Union africaine, pardon, des centres d'excellence qui font qu'aujourd'hui il y a des pôles spécialisés où l'ensemble de l'Afrique envoie leurs étudiants là-bas pour être mieux formés. Mm-hmm. Et je pense ça, il faut qu'on puisse travailler pour que nos efforts convergent pour avoir donc des universités qui vont permettre donc la formation de nos élites. Et ça, c'est important. Il faut qu'on travaille pour cela au niveau de l'Union africaine pour parfaire cela. Aujourd'hui, on doit envoyer nos étudiants vers des pôles en Afrique qui nous permettront un peu que ça soit moins cher déjà pour l'État, parce que quoi qu'on puisse dire, c'est les familles qui s'approprient, c'est le Sénégal globalement.
Moins cher et adapté au continent, adapté aux besoins du continent. Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté de venir en débattre ici. On aurait voulu avoir d'autres personnes pour apporter de la contradiction. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Marjorie Bertin, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle émission du journal sur Radio France Internationale.